Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 15 octobre 2025. Il est 21h32 et nous sommes en route pour un nouveau live spécial que j'ai pas fait hier parce que j'étais grippé. Je suis encore un peu malade d'ailleurs, mais je suis là ce soir parce que j'avais envie de rattraper un petit peu tout ça quand même. Je m'excuse encore hein, parce que du coup avec tout ça, parce que j'ai aussi été sur Radio Courtoisie cet après-midi. Du coup, à nouveau, je fais l'impasse sur le bulletin cette semaine parce que je passe énormément de temps à suivre l'actualité française. Je m'en excuse, en particulier auprès de Max, qui est le seul, mais je le remercie pour à quel point il est à chaque fois désolé du fait qu'il n'y ait pas le bulletin quand il n'y est pas. Ça me touche énormément, ça me donne encore plus envie de le refaire quand j'ai le temps. Mais là, malheureusement, voilà, je peux pas. Le jour où j'aurai plus à faire mon boulot en plus, j'aurai plus à faire d'impasse sur le bulletin. Malheureusement, je ne peux pas. Alors, oui, donc je disais, je ne veux pas me dérober à ça hier, d'autant plus que on était resté, je pense, sur une séquence où la censure était probable, et entre-temps, elle s'est beaucoup éloignée. Donc je trouve ça intéressant de se demander ce que ça veut dire, où on va et qu'est-ce que ça change, et se poser un petit peu des questions historionomiques. Voilà, parce que malgré tout, les gens qui arrivent parfois sur cette chaîne font l'erreur de croire que le premier intérêt ici, c'est de savoir véritablement ce qui va se passer, de prédire l'avenir. Et du coup, quand ça n'arrive pas exactement comme on pensait, ou que ça n'arrive pas comme on pensait, ils sont catastrophés. Alors que tout l'intérêt surtout de la démarche, c'est toute cette démarche, on va dire, de commentaire de l'actualité, je rappelle, c'est une démarche qui, en fait, est accessoire hein, à mon travail de fond, qui est un travail de théorie. Et donc, en fait, pour moi, c'est surtout une démarche expérimentale. Et c'est ça qui est extrêmement excitant quand tu as une actualité extrêmement active. Alors, je sais qu'il y a encore des gens qui vont dire que le son est faible, qu'il faut faire plus fort. Moi, au bout d'un moment, il est réglé comme la dernière fois. Et la dernière fois, il y en avait la moitié ou les deux tiers des gens qui étaient bons pour le son. Et le tiers restant, c'était pas bon. Alors, je sais pas, mettez les écouteurs ou enlevez-les, débrouillez-vous. C'est aussi introuvable que l'équilibre au gouvernement, apparemment, le son. Donc, oui, alors je disais qu'alors qu'en fait, le but de la démarche, c'est de faire de l'expérimentation. Moi, si je suis tout excité quand il se passe beaucoup de choses comme ça, c'est pas tellement avec l'espoir qu'il se passera véritablement quelque chose, c'est surtout avec l'idée de vérifier si ce qui se passe est conforme à ce qu'on pouvait attendre. Et si c'est pas conforme, d'avoir l'exaltation, si vous voulez, d'avoir des données supplémentaires qui permettront de préciser et de comprendre justement ce qui ne va pas. Hein, ce qui est l'excitation de tout scientifique qui mène une expérience. Expérimentalement, enfin, scientifiquement, quand vous faites une expérience, le résultat, de toute façon, est significatif, qu'il confirme ou qu'il infirme les prévisions que vous aviez faites. Donc vous savez s'il faut remettre en question ou pas. Et donc, la question de savoir où on va, précisément, ça m'évoque une réflexion que j'avais envie d'avoir avec vous. Vous savez, ça fait un moment que je vous dis, je continue de penser que c'est le cas, mais je vais vous expliquer, toujours pareil, hein, moi le but, c'est pas de vous donner les idées comme ça, et puis en disant, comme Nostradamus, que ça marchera ou ça marchera pas. L'intérêt, c'est la démarche intellectuelle. Donc à chaque fois, je vous donne les clés de pourquoi je pense une chose, vous en faites ce que vous voulez, et à la fin, en fonction de la façon dont les choses se décantent, on voit ensemble si c'était pertinent ou pas. Donc vous savez que depuis plusieurs années, je dis que Emmanuel Macron n'arrivera pas au bout de son mandat. Pourquoi? Parce que on a un processus révolutionnaire qui arrive en France et que normalement, le processus révolutionnaire doit passer par un abaissement de la fonction présidentielle et cet abaissement, ça doit venir à l'occasion d'une rupture, dans ce sens où je ne pense pas qu'une élection perdue suffise. Et d'autant moins à propos d'Emmanuel Macron, où ce serait même pas une élection perdue, puisqu'il ne peut pas se représenter. C'est-à-dire qu'un simple départ et un simple changement, j'ai du mal à considérer que ça correspondrait au standard de signification, si vous voulez, ou de caractère significatif, que doit représenter la chute du régime. Donc c'est pour ça que je suppose que Emmanuel Macron partira, et encore une fois, qu'il partira comme Yanukovych. Dans le temps, alors c'était il y a quelques années, je pense maintenant, probablement avant la réforme des retraites et donc avant que la crise institutionnelle elle-même apparaisse, c'est-à-dire dans les moments où je pouvais avoir un doute, ne serait-ce que sur l'ampleur de la crise constitutionnelle, alors que là maintenant je ne l'ai plus trop, puisque ça s'est confirmé. Mais à ce moment-là, j'avais émis l'hypothèse que peut-être qu'Emmanuel Macron ne serait pas le dernier président de la Ve République et que par exemple, la crise arriverait avec une élection de Marine Le Pen ou de personnage d'extrême droite, enfin d'extrême droite, vous m'avez compris, qui serait à ce moment-là confrontée à la gauche qui, elle, chercherait à briser la puissance présidentielle. Bon. Alors, il ne faut pas totalement écarter cette hypothèse, parce que dans l'hypothèse où Emmanuel Macron terminerait son mandat, c'est probablement quelque chose comme ça qui se passerait. Parce qu'encore une fois, la rupture de la fonction présidentielle, je pense qu'elle arrivera. Maintenant, moi, je pense toujours que ça arrivera du vivant, j'allais dire, durant la présidence Emmanuel Macron. Mais il y a quand même des questions qu'il faut noter. Parce que je vous ai expliqué que, d'après moi, l'exemple historique qu'on a qui permet de penser que même en présence d'une future élection, le président peut être forcé à partir, c'est l'exemple ukrainien avec Yanukovych qui, encore une fois, a démissionné, enfin est parti, un an avant la fin de son mandat. C'est-à-dire après, il y aurait eu une élection, il aurait pu être battu à l'élection suivante. Mais les gens n'ont pas attendu, ils l'ont mis dehors, parce qu'il y avait un sentiment d'urgence à ce propos-là. Bon. Donc je vous ai dit, je pense qu'Emmanuel Macron peut encore partir nettement, parce qu'on est à 2 ans de l'élection présidentielle, un peu moins de 2 ans maintenant. Maintenant, il faut se rendre compte de certaines choses. C'est que, en dépit. Alors, je vais y revenir après sur la relative accélération de l'histoire, parce que c'est quand même un phénomène aussi intéressant à examiner. Mais en dépit de ça, si jamais on se retrouve, par exemple, avec un nouveau Bayrou, par exemple, un nouveau cas du genre, avec une situation qui se figerait à nouveau pendant 6 mois, et que ça nous amène jusqu'à l'été prochain. Ben à ce moment-là, à l'été prochain, on sera à moins d'un an de l'élection présidentielle suivante. Est-ce que, à cette distance-là de l'élection présidentielle, le délai ne sera pas suffisamment court pour éteindre la volonté de faire partir de force Emmanuel Macron? C'est possible. Donc il n'est pas impossible qu'il suffise pour Emmanuel Macron, grosso modo, de tenir jusqu'à l'été prochain pour être sûr de terminer son mandat. Et le fait est que, quand on voit par exemple que Bayrou a réussi à tenir en faisant absolument rien pendant 8 mois, on peut se poser la question. Et donc, je pense qu'il y a une hypothèse valable dans laquelle on se retrouve avec du y aura rien pendant jusqu'à l'été prochain. À ce moment-là, Macron pourrait terminer son mandat. Bon, c'est pas l'hypothèse que je privilégie, mais encore une fois, ça resterait possible et éventuellement dans les clous, puisque comme je l'ai toujours dit, il y a tout un tas de trucs qui auraient été dans les clous. Hein. Si la révolution, si pardon, la motion de censure avait été votée en mars 2023, on aurait été dans les clous. Sauf que ça aurait été un an et demi plus tôt que ça n'a été le cas, effectivement. Excusez-moi, je ferme ma fenêtre parce que, le courant d'air, je suis assez grippé comme ça. La question sur laquelle j'ai envie de raisonner avec vous ce soir, justement, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant et à quoi on peut s'attendre? Parce que si le cornu n'est pas censuré, et je vais peut-être revenir sur le détail après, mais je suis pas là pour faire des émissions politiques. Si vous voulez des émissions politiques de commentaires avec les données, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas ici que vous venez. Simplement, vous savez, vous devez être au courant qu'il y a un certain nombre de partis qui ont prévu de censurer, il y en a un certain nombre qui n'ont pas prévu de censurer, et on essaie de faire actuellement des décomptes en sachant s'il y a des gens qui votent la censure, tant de l'UIOC, tant du PS, tant de peut-être LR, des frondeurs de tous les côtés. À ce moment-là, on pourrait arriver donc. On essaie, c'est vrai, de se raccrocher un peu à l'espoir que la censure intervienne demain. Bon, c'est pas clairement depuis que le PS a décidé de se rallier en fait au gouvernement sur une promesse extrêmement contestable dans la réalité et très contestée de suspension des retraites. En même temps, légalement, il ne pouvait pas leur être promis beaucoup plus puisqu'il s'agit de voter une loi spéciale. Mais enfin, ils auraient pu décider, la semaine prochaine, on votera un texte là-dessus, où on va accélérer la procédure législative. Or, le biais qu'ils cherchent à prendre à travers le PLFSS, je ne vais pas repartir dans la technique, mais ça risque d'être un peu compliqué. Donc, d'aucuns disent que c'est un piège pour obliger le PS à voter d'abord le budget principal, avant de leur lâcher le truc sur le PLFSS, histoire d'obliger de tordre le bras au PS sur le budget, etc. Bon, j'y reviendrai peut-être après. Mais, a priori donc, on n'est pas dans une situation où il y aura censure demain. Alors qu'on pouvait passer le contraire lundi, parce que beaucoup disaient, même j'aurais eu tendance à le penser, Emmanuel Macron va penser qu'il peut encore tordre le PS, etc., en disant que vous avez peur de la dissolution, donc on s'en fout, on reste sur les retraites et vous censurez pas, ou en tout cas si vous censurez, je dissoudrai pas. Apparemment, c'est pas ce qui se passe, et donc le gouvernement de Lecornu va probablement survivre pendant quelques jours. Là-dessus, je veux interroger avec vous, m'intéresser à quelque chose qu'on a vu donc depuis 2 ans maintenant, c'est le fait que Et il faut s'interroger historiquement là-dessus, parce que vous savez qu'une des choses que je montre dans mes travaux, notamment dans la structure de l'histoire, je m'intéresse beaucoup à ça, sur la question des rythmes qu'on trouve toujours similaires, c'est-à-dire le fait que les trajectoires, elles se déroulent toujours, grosso modo, dans un même espace de temps, et avec un rythme entre les étapes qui est à peu près toujours le même. Alors, il y a des variations, hein, de temps, mais on reste sur des séquences qui sont à peu près toujours pareilles. Donc, ça veut dire qu'il y a une variabilité, mais on constate aussi que parfois, quand vous avez une étape qui durera un petit peu trop longtemps, il y a de fortes chances que ça se rattrape avec une étape suivante qui sera un petit peu plus courte. Probablement parce qu'il y a des choses de l'étape d'avant qui se sont déjà déroulées, de l'étape d'après, qui ont déjà commencé à se dérouler dans certains domaines dans l'étape d'avant et qui se débloquent une fois qu'on franchit le truc, donc ça permet d'aller plus vite, de gagner du temps, si vous voulez. Et j'ai l'impression qu'on a vu des séquences comme ça. Par exemple, si vous reprenez la question de la censure qui aurait pu intervenir en mars 2023, qui n'est pas intervenue. À ce moment-là, il ne se passe plus rien, à part, enfin, il ne se passe plus rien pendant un an et demi, sauf que tout d'un coup, à partir de la dissolution donc de juin 2024, vous avez une très forte accélération qui amène à la censure de décembre. Et encore, il y a des choses qui ont ralenti là aussi avec le Macron qui a traîné en longueur sur la nomination du Premier ministre, etc. Mais Barnier a été censuré relativement vite. Ensuite, vous avez la nomination de Bayrou. Là, on s'attendait à ce que la censure arrive assez vite. Elle n'est pas arrivée assez vite, au contraire, ça a traîné en longueur pendant 8 mois. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On a de nouvelles accélérations qu'on n'attendait pas. On a Bayrou, alors qu'on s'attendait à ce que Bayrou soit censuré là, à l'automne, on a Bayrou qui laisse tomber directement en faisant son vote de confiance le 8 septembre. Derrière, on a la nomination de Le Cornu. Et là, on a la démission en 24 heures de Le Cornu. Donc, nouvelle accélération considérable. On a deux accélérations en l'espace d'un mois qui ont été impressionnantes et qui ont donné l'impression qu'on a presque rattrapé le temps qu'on avait perdu avec Bayrou, vous voyez? Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même le sentiment, et c'est ça que j'essaie d'évoquer aussi à travers la loi Loc périodique, dont je vous parle régulièrement, on a le sentiment que, grosso modo, il y a une, comment dire, vous avez une sorte de courbe comme ça, linéaire, si vous voulez, alors soit la courbe de la crise dans ce sens-là, soit la courbe de la chute du régime, vous voyez, dans le sens que vous voulez, et que le long de cette courbe, vous avez des choses qui ralentissent, tout d'un coup ça va se maintenir comme ça, puis ça va tomber d'un coup comme ça va faire un coude pour rejoindre la ligne, quoi. On a le sentiment que ça se passe comme ça. Et donc dans ces circonstances-là, il n'est pas du tout. On peut toujours se dire que même si demain il n'y a pas la censure dont on s'attendait à ce qu'elle ait lieu, il n'est pas impossible que dans 15 jours, il y en a une à laquelle on ne s'attend pas du tout aujourd'hui. Et ce que je suis incapable de dire à ce moment-là, c'est si, de manière certaine, en fait, tout simplement, c'est ça pour vous résumer le propos, si de manière certaine, cette séquence nous amène à un départ d'Emmanuel Macron avant l'été prochain, ou pas. Je ne suis pas capable de vous le dire. Plus on se rapproche du truc, plus on a l'impression que ça sera le cas, mais encore une fois, si on se met à perdre 4 ou 5 mois avec Le Cornu, qu'après il y a une dissolution, qu'après il y a un truc, ça peut amener jusqu'à l'été, ça. Donc, très compliqué de dire plus. Mais il s'est passé énormément de choses ces derniers jours, c'est pour ça qu'on a fait autant de lives d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir que cette accélération est possible. Peut-être qu'on va entrer dans une espèce de palier de stagnation et qu'ensuite on aura tout d'un coup, je ne sais pas, mi-novembre, tout d'un coup une accélération. C'est pas impossible. Ça, c'était le préambule théorique, si vous voulez, que je voulais mettre en place parce que c'est très très important, encore une fois, pour comprendre notre démarche, et même pour vous qui êtes habitués à être là, si vous ne découvrez pas la chaîne, vous connaissez la démarche, mais c'est toujours bien de le rappeler, pour essayer de se souvenir où est-ce qu'on en est et que veulent dire les choses que l'on voit. Alors là, ce qui est en train de se passer, semble-t-il, c'est que on a une accalmie dans la chute du régime, après la chute de Bayrou, la chute de Le Cornu et la presque rechute de Le Cornu, finalement, on aurait un Le Cornu qui se maintiendrait au-delà de demain. Et une entrée dans la négociation du budget. Alors, la première chose intéressante à voir, c'est que cet apaisement, cependant, cette entrée dans la négociation du budget, déjà, il est porteur de deux choses qui vont dans le sens de la modification institutionnelle. Un, ça veut dire qu'on a un rôle accru encore du Parlement, avec la mise en œuvre de l'abandon du 49-3 de Le Cornu, qui devient effective. Alors, bien sûr, il y a la discussion de savoir dans quel point c'est piégeux, parce qu'au-delà, il y aurait les ordonnances, etc. D'accord, très bien. Mais enfin, en attendant, il va y avoir un débat long sur le budget. L'année dernière, il n'y a pas eu de débat sur le budget. L'année dernière, on est arrivé en limite de trucs, en négociant vaguement, et à la fin, Barnier a tenté le 49-3. Là, ce n'est pas ce qui se passera. Donc, c'est quand même un progrès dans la parlementarisation du régime. Je suis désolé, à partir du moment où ce qu'on prévoyait, c'était une parlementarisation du régime, en début de Révolution nationale, c'est important. C'est un résultat qu'il faut noter. Donc, avancée parlementaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est le fait que, outre le fait, parce que bon, ça serait à la limite une troisième chose, outre le fait que la nomination du chef du gouvernement a encore un petit peu plus, d'une certaine manière, échappé à la présidence de la République en l'obligeant à composer véritablement avec le Parlement, parce que sans ça, il tenait même pas sa nomination, confère la démission de la semaine dernière. Donc la main du Parlement dans son ensemble sur la nomination elle-même, et qui passe à travers, c'est ça le deuxième point que je voulais mentionner, comptez que c'est le troisième, on s'en fout, qui est le fait que l'exécutif, le président de la République, a dû, en tout cas en principe, encore une fois, on va voir comment ça se négocie derrière, mais a dû abdiquer sur le principe de sa réforme maîtresse, la réforme des retraites, pour permettre la survie du gouvernement. Ça veut dire que, virtuellement en tout cas, c'est vraiment un début, c'est timide, peut-être qu'il va revenir dessus, mais c'est un recul de la présidence face aux prérogatives du Parlement. C'est-à-dire que c'est au prix d'une petite abdication que le roi évite une abdication supérieure. Ça aussi, c'est une indication intéressante dans l'évolution du régime, dans l'abaissement de la fonction présidentielle. Hein? Même s'il est toujours là triomphant, c'est un recul, c'est une concession qu'il a été obligé de faire et qui a été soulignée comme telle par les commentateurs, hein, qui ont dit c'est vraiment étonnant qu'Emmanuel Macron ait accepté de céder là-dessus. Donc ça veut dire qu'on rentre quand même, on poursuit le mouvement de parlementarisation du régime. C'est pas un affaiblissement de la présidence, mais c'est un renforcement du Parlement qui va dans le même sens. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut voir et qui distingue un petit peu des fois précédentes. La chute de Barnier a permis à Bayrou d'arriver et de sortir son propre budget. Sur 49.3, d'ailleurs, aussi, si je me souviens bien. Dites-moi dans le chat si je me trompe, hein. Mais il me semble qu'il y avait eu un 49.3, mais qu'il avait obtenu la non-censure du Parti Socialiste. Et que donc le budget était passé. C'était quoi? C'était en février, ou janvier-février. Et là, pourquoi c'était important? Parce que, et que la situation est différente de maintenant, parce qu'à partir du moment où le premier vote auquel avait échappé Bayrou, hein, c'était le seul vote auquel il s'était soumis d'ailleurs, le premier vote auquel il avait survécu, était un vote qui éliminait la question du budget. Donc au-delà de ce vote, Bayrou a été tranquille, jusqu'à ce que la question du budget se repose à nouveau, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, quand il a commencé à en parler. Le Cornu, lui, le Cornu, il va survivre probablement à cette première étape de motion de censure la semaine de sa nomination. Très bien. Sauf que ça ne donne, ça n'a, l'issue à partir de vendredi, ce n'est pas du tout, ne règle pas du tout, contrairement à Bayrou, la question du budget. C'est-à-dire que lui, il se retrouve toujours avec la question du budget. La question du budget persiste jusqu'à la fin de l'année. Or, c'est extraordinairement important. Si le Cornu là avait réussi à faire passer son budget par 49-3, en promettant aux socialistes la suspension de la réforme des retraites, là, on aurait pu dire de manière assez certaine, le Cornu va durer pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus rien eu véritablement pour mettre la pression sur le gouvernement de le Cornu, directement. Parce qu'il n'y avait plus la question du budget. Et encore une fois, la question qui fait tomber les gouvernements et qui pose énormément de problèmes depuis à la crise, encore une fois, c'est normal, hein, ce qui provoque la révolution, c'est la ruine financière, c'est la question budgétaire. Or là, s'ouvre une séquence dans laquelle, certes, le Cornu se maintient comme Premier ministre, mais il est toujours dans une sorte de sursis parce que le budget est encore devant lui. Le budget n'est pas gagné, et là, il va y avoir 2 mois et demi pour arriver à trouver ce budget. Donc la question terrible qui fait tomber les gouvernements, elle est toujours là. Ce qui fait que le gouvernement va peut-être tomber dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Le psychodrame n'est pas fini. On va entrer dans un débat qui va être extrêmement tendu, qui risque d'ailleurs de tourner à la foire à la saucisse. D'ailleurs, ça commence. Hein, si vous regardez sur les réseaux sociaux, ils sont tous en train de proposer des taxes dans tous les sens. C'est extraordinaire. Bien peu à proposer des baisses de dépenses publiques. Mais on va voir comment tout ça va s'activer. Est-ce que le gouvernement va, est-ce que le Parlement va réussir à sortir un budget comme ça et à s'accorder sur un budget à la fin qui fera suffisamment consensus parmi tous les gens qui n'ont pas censuré le cornu ? C'est extrêmement peu probable. J'ai du mal à imaginer que dans 2 mois, vous ayez les Républicains et les socialistes qui soient tombés d'accord sur un budget. Ça paraît très très compliqué. S'ils le sont, ça sera très intéressant. Parce que, et ça a été beaucoup répété ces jours-ci, voter ou pas le budget, c'est ce qui différencie l'opposition du parti du gouvernement. Si les socialistes décident de voter le budget à la fin de l'année, de facto, ils feront partie, ils ne seront plus dans l'opposition. Et ça, en vue des municipales, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Même s'ils essaieront sans doute de surfer sur l'idée « on a réussi à faire... suspendre la réforme des retraites », mais quand on voit déjà toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement et prévues sur l'année blanche, l'absence d'indexation sur un certain nombre de prestations sociales, etc., ça fait reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, hein, tout simplement. Donc il va y avoir énormément de tensions autour de ça. Et si à la fin de l'année, finalement, il n'y a pas de budget qui est voté et que tout passe par ordonnance, il est très vraisemblable que juste derrière, par vengeance, en fait, il sera censuré. Il pourrait être censuré à Noël ou après le premier de l'an, quoi. D'autant plus que, si vous vous souvenez bien, Horizon, la position d'Horizon et d'Edouard Philippe maintenant, c'est il faut donner un budget à la France et ensuite il faut une présidentielle anticipée. Donc une fois que le budget aura été adopté, je pense que vous pouvez compter que les députés Horizon basculeront dans le camp de la censure. Ça sera après le vote du budget à la fin de l'année, déjà. Donc ça finira par arriver. Mais encore une fois, ça c'est l'échéance qu'on voit, mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Si en cours de route, les socialistes se mettent à imaginer que, ou à comprendre qu'ils ont été floués, qu'on se moque d'eux sur la question des retraites et qu'à côté de ça, le budget va être catastrophique selon leur vue, à ce moment-là, ils peuvent censurer plus tôt. Et je rappelle qu'on est dans une situation qui est beaucoup plus tendue qu'au début de l'année, puisqu'au début de l'année, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le petit fusil qui est là-haut. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous le montrerai peut-être en live privé si vous voulez. Mais s'il n'y en a pas ce soir, c'est un live spécial, donc je réponds aux questions. Je rappelle que je réponds aux questions dans le cours de l'émission. Donc ce qui a changé par rapport au début de l'année, je le répète, c'est qu'on a une situation qui s'est dégradée sur le plan de la censure, puisque désormais, outre LFI qui censurait systématiquement, vous avez le RN qui censure systématiquement et Ciotti qui censure systématiquement. Donc vous avez une base de censure qui doit être à 220 députés, quelque chose comme ça minimum, 212 ou 210 ou 220 députés. Donc, on n'est pas à l'abri de surprise que les choses accélèrent d'ici Noël. Pareil, on peut avoir une grosse... Honnêtement, je serais très surpris. Mais on peut avoir, à ce stade-là... Vous m'auriez dit ça lundi, c'est sûr, il va être censuré jeudi. J'aurais dit oui, ça me paraît logique. Hein. J'avais posé la question à Grog. D'ailleurs, même Grog voyait 85% de censure pour jeudi. Et là, il est tombé à 15% aujourd'hui. Donc, vous voyez le truc. Mais je pense qu'il est plus juste sur les 15% que sur les 85%. Je vois les calculs qui se multiplient. Je ne pense pas qu'il y aura de censure demain. Mais je n'aurais jamais imaginé, lundi, il y a 15 jours, que le cornu démissionnerait. Je veux dire, il n'y a même pas 15 jours, c'était il y a 10 jours d'ailleurs. On a l'impression que le temps passe vite, alors qu'en fait, il ne se passe pas beaucoup de choses. Maintenant, donc, ça, voilà, un point là-dessus, sur la censure. Autre point dont je veux vous parler, dans le cadre du contexte, qui est un point aussi intéressant, qui est l'évolution de LR. Parce que vous vous souviendrez que l'année dernière, quand j'avais parlé de... quand j'avais fait des émissions notamment sur le coup de force de Ciotti, hein, dont nous nous souvenons tous, je pense, avec émotion, c'était un petit peu notre Prigogine à nous. Quand j'avais parlé de coup de force de Ciotti, j'avais fait des émissions dans lesquelles j'avais rappelé que les Républicains, c'était le parti du régime. C'est le parti gaulliste qui est véritablement consubstantiel au régime. C'est le dépositaire de l'héritage. C'est ceux qui ont été au pouvoir pendant les deux tiers de la vie du régime, qui le sont encore plus ou moins depuis le début d'Emmanuel Macron en soutien. Et donc, nous arrivons dans une situation où le délitement de ce parti continue. Donc la première étape, c'était Ciotti qui a décidé de rejoindre le Rassemblement National, de s'allier avec, de mettre fin au cordon sanitaire. Maintenant, nous approchons, alors il y a des sondages qui sont sortis, montrant qu'il y a une majorité de gens à droite qui veulent l'union des droites. Vous avez d'ailleurs un point là-dessus intéressant. Vous avez Marine Le Pen qui refuse ça, en disant qu'elle n'est pas de droite, elle. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, parce que c'est une femme de gauche, etc., ou parce que, etc. Mais je trouve ça intéressant, moi, quand Marine Le Pen refuse d'être associée comme ça aux Républicains. Je ne pense pas que c'est par refus d'être de droite. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que, sociologiquement, LR, c'est véritablement devenu le parti de la bourgeoisie de droite. Par définition, ce sont les gens qui méprisent l'électorat du Rassemblement national et ce sont les gens qui empêchent l'électorat du Rassemblement national d'arriver au pouvoir depuis des décennies. Ce sont des gens qui ont toléré, qui se sont soumis aux exigences de cordon sanitaire de la gauche, et ce sont des gens qui préfèrent toujours gouverner avec le centre macroniste qui sociologiquement est plus proche d'eux qu'avec le bas-peuple du Rassemblement national. Donc la détestation de Marine Le Pen là-dessus est très intéressante. Par ailleurs, sur la casse du régime, de toute évidence, d'une certaine manière, on peut dire que Marine de gauche est plus de gauche que les Républicains. Parce que les Républicains sont des vrais, vrais conservateurs du régime. Ils ne veulent pas que ça bouge. Alors que Marine Le Pen, elle veut le casser, malgré tout. Il y a cette volonté de casse, en tout cas d'anticonformisme, qui veut le réduire. Donc ça, voilà, c'était une petite parenthèse sur cette position qui n'est pas si idiote qu'elle peut avoir l'air. Donc les Républicains, c'est un petit peu la blague. Vous avez, grosso modo, de ce que j'ai compris, les députés du groupe parlementaire des Républicains avec derrière Wauquiez qui ont décidé qu'ils ne censureraient pas. Très clairement, parce qu'ils ont peur de la dissolution. Alors, je ne sais pas si leur électorat est d'accord pour ça. J'ai vu qu'ils avaient eu un sondage auprès des militants LR qui disaient qu'à 75%, ils étaient contre la participation au gouvernement. J'ai vu un autre sondage sur BFM TV qui disait que 75% aussi étaient contre la censure, en revanche. Ce que j'ai trouvé étonnant, mais en même temps pas étonnant, parce que l'électorat LR aussi est un peu mou du genou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la direction du parti des Républicains, autour de Retailleau, était contre la participation au gouvernement, était pas pour la censure, mais quand vous lisez le communiqué de Retailleau qui dit que le gouvernement est l'otage du Parti Socialiste, vous ne voyez pas comment vous pouvez dire ça et être contre la censure. Et vous avez François-Xavier Bellamy, qui est en gros le numéro 2 du parti, qui a expliqué que lui, s'il était député, il voterait la censure. Bon, il ne l'est pas, il est au Parlement européen, mais enfin, il a quand même voté la dernière censure contre von der Leyen, il faut quand même souligner ça. Il a changé d'avis par rapport à la fois précédente. Donc vous avez... Et alors, la question, c'est de savoir quelle est la position de Gérard Larcher, qui ne s'est pas prononcé personnellement. Je ne pense pas qu'il soit du genre être pour la censure, parce que pour la censure, ça voudrait dire être pour la dissolution. Et visiblement, il n'est pas pour la dissolution. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des LR qui voteront la censure? Je n'en sais rien. A priori, comptez pas trop dessus. Même si ce serait une autodissolution à la fois de LR et du régime, mais ça serait pour terminer en beauté. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est un délitement qui se poursuit. C'est-à-dire que de plus en plus, les franges qui peuvent être absorbées par le RN se détachent. Et donc je pense que Retailleau, malgré tout, qui est un petit peu plus à droite, entre guillemets, que Laurent Wauquiez, est prêt aussi à discuter, peut-être avec Ciotti, pour voir s'il y a quelque chose à faire. L'idée de l'union des droites est peut-être une idée qui va faire son chemin. cette idée que j'avais mentionnée à l'époque, dont je pensais que c'était la stratégie Larcher, je pense toujours que c'est un truc, mais bon, que les élections ne l'ont pas permis parce qu'il n'y avait pas de majorité à droite, mais de faire, de gouverner LR en utilisant le RN comme masse de manœuvre pour les votes, comme ça avait été fait pour la loi immigration, est possible. La question, c'est est-ce que le parti survivra à la crise de régime? Mais la question, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que la question ne se pose pas juste pour LR, elle se pose aussi pour le Parti socialiste aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on retombe sur ce que j'ai dit juste avant, il y a cette façon dont le Parti socialiste décide de donner son appui pour éviter la censure du gouvernement, et en fait éviter la chute du régime, parce que c'est ça qui se passe. Le Parti socialiste, en refusant de censurer, évite la chute du régime, parce que là, on était sur la nouvelle dissolution, et ça allait précipiter ensuite vers l'éventuelle démission d'Emmanuel Macron en raison du résultat. Or, qu'est-ce qui caractérise le PS? Le PS, c'est l'autre parti du régime. LR, c'est le parti du fondateur du régime, le général de Gaulle. Le Parti socialiste, c'est le parti refondateur de notre ancien régime, en fait, à partir de Mitterrand, c'est-à-dire celui qui a mis tout le système en place. Celui qui était peuplé de 68ards, qui ont cherché à prendre les places de la génération précédente, qui ont construit tout le système, qui ont construit le système des subventions à la presse, du copinage entre la presse et la politique, de l'audiovisuel public et son noyautage par des personnalités du PS, le noyautage de la totalité des grandes institutions et de la haute fonction publique. Hein, c'est tout ça le PS. Et donc le PS, naturellement, c'est l'autre partie du régime avec LR. Et d'une certaine manière, que ces deux partis se retrouvent dans la dernière tentative de sauvetage du régime est assez cohérent. Parce qu'au fond, ils sentent quoi? Que ce soit de gauche ou que ce soit de droite, que ce soit le RN ou que ce soit LFI, si le régime saute, tout lâche. Et tout risque d'être remis en question. Tout ce qu'ils ont construit et tout ce dont ils vivent. Ce qui est le cas de LR comme du PS, hein. Toute leur prébende, tout leur système de gestion des élus locaux, toutes les quantités de personnes et d'employés de collectivités territoriales, etc., qui se sont gavés sur la bête depuis 50 ans et qui existent et qui forment toute une société parallèle. Tous ces gens-là, le jour où on fait Afuera, c'est terminé. Et donc, ils se retrouvent dans le sauvetage du régime. Et c'est très intéressant parce que je trouve que finalement, ça donne une sorte de clivage qui est intéressant, qui est un nouveau clivage. C'est le clivage autour du régime, en fait, pour ou contre le régime. Et en disant de ne pas censurer demain, ceux des LR et ceux du Parti Socialiste qui décideront de ne pas censurer seront des partisans du maintien du régime. Et en face d'eux, il y a les autres, ceux pour la rupture du régime. Et je pense qu'on voit à travers ça se dessiner justement l'avenir du clivage. Puisque à terme, tout ce. Si vous voulez, dans le monde d'après, il n'est pas impossible que beaucoup de gens qui sont actuellement au Parti Socialiste fassent partie des déclassés, si vous voulez, dans la recomposition du clivage qu'il y aura après. Et ils iront y rejoindre les boomers dont les retraites auront baissé, si vous voulez. C'est assez vraisemblable que les choses se passeront comme ça. Et c'est cette rupture-là qu'on est en train de voir. Et je pense qu'on va assister à une recomposition dans ce sens-là, dans les semaines qui viennent, encore une fois, et qu'au Parti socialiste, il y aura peut-être une scission entre ceux qui suivent leurs convictions en se détachant du régime et ceux qui cherchent véritablement à préserver le régime parce qu'ils appartiennent à ces élites et ils cherchent à maintenir en fait le régime tel qu'il est. Voilà la façon dont je vois les choses. Il demeure que c'est pas encore une fois une gestion normale de la situation, hein, parce que tout de suite, je sais plus, je crois que j'entendais Duhamel l'autre jour qui disait: Ah ben quand même, c'est la preuve que les institutions résistent parce qu'on trouve des solutions, etc. Non, non, encore une fois, c'est pas une crise comme les autres. Dans la mesure où depuis 2 ans, on est dans tout à fait autre chose. Les gens vous disent parfois: Oui, mais avant, il y avait des cohabitations. Mais la cohabitation, c'était encore le fait majoritaire. C'était le fait majoritaire dans l'autre sens, mais c'était encore le fait majoritaire. Là, on est sorti du fait majoritaire, on est vraiment dans une reparlementarisation. Elle va se déployer notamment à l'occasion de la discussion du budget, qui risque de donner lieu à de nouveaux chaos. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura des accélérations, mais c'est vraiment passionnant à observer, notamment pour affiner la discussion. Alors, on va regarder si on a quelques questions auxquelles répondre. Alors, on remercie Martin H. qui, alors, il nous est mentionné comme nouveau membre Frères Historiens, mais je pense que c'est un renouvellement, parce que nous connaissons Martin, à moins que ce soit un nouveau Martin H. Dominique, merci pour le don. Manu peut-il être chassé sans concours de force extérieure ? Oui, normalement, oui. La révolution est essentiellement un phénomène endogène. Donc, s'il doit être chassé, il doit pouvoir l'être uniquement par l'effet de la pression des forces intérieures. Ce qui n'empêche pas, c'est que des événements extérieurs, comme, encore une fois, la guerre aux frontières de l'Europe, etc., peuvent avoir un rôle et stimuler la tension à l'intérieur. Mais voilà, difficile à dire. Merci à Alain Juliron pour son don, que nous remercions véritablement. Merci Alain, qui est un petit peu le nouveau patron de la chaîne. Alain Patron Juliron, on va l'appeler. C'est ce qu'aurait dit Léo, en tout cas s'il était là. La bête du Gévaudan me demande, l'amendement sur la suspension de la réforme des retraites ne sera-t-il pas de fait considéré comme cavalier social par le Conseil constitutionnel et donc caduque et donc censure du PS en décembre? Alors ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que j'ai vu des gens qui ont noté que c'était déjà dans le cadre d'un projet rectificatif de financement de la loi sur la sécurité sociale que la réforme avait été adoptée. Donc qu'il n'y aurait pas de raison que le Conseil constitutionnel considère que remodifier ça dans le cadre d'une loi sur le financement de la sécurité sociale soit un cavalier législatif. Donc a priori, voilà, il n'y a pas de raison. Ou alors, ça serait vraiment aller contre ses propres jugements d'avant. Alors, c'est possible, mais voilà, à voir. De toute façon, ils feront bien ce que Macron leur dira, on suppose. Mais c'est pas sûr. En tout cas, est-ce qu'il pourrait déjà être censuré avant décembre? Il n'est pas impossible que le cornu se débrouillerait pour faire traîner suffisamment les choses, je pense, même devant le Conseil constitutionnel, pour que ce soit jugé qu'en janvier éventuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, je ne pense pas que c'est le plus évident. Je pense qu'il y aura bien d'autres pièges, c'est très difficile techniquement, on voit tout le monde dire un petit peu n'importe quoi, ou un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai du mal à me faire une opinion certaine sur la question. En revanche, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que les sondages ont l'air hésitants sur la question de savoir si les Français veulent en majorité la censure ou pas. Puisque il y a eu ce matin le sondage Elab pour BFM TV qui considérait qu'il y avait 56% des Français qui étaient contre la censure. J'ai vu un autre sondage cet après-midi qui était à 52% pour la censure. Donc on suppose que c'est moite-moite en fait dans l'opinion en gros. Hein. Ce qui n'aide pas non plus les partis à se déterminer purement en fonction de l'opinion. Général Arnaud, penses-tu qu'un coup d'état militaire est possible en France en mode Madagascar? Alors, je pense pas. Non, je pense pas. Parce qu'on fait très attention de sélectionner les militaires pour qu'ils soient soumis. En plus, on voit bien pourquoi les militaires. Les militaires feraient un coup d'état parce qu'on n'a pas de budget. Ça paraît un peu ou à cause de la réforme des retraites. Enfin, soyons sérieux. Je ne vois pas les choses à cette raison-là. Madagascar, en plus, je n'ai pas pu faire de bulletin pour en parler, donc je vais en dire deux mots. Effectivement, il y a de l'agitation là-bas. Mon problème, c'est que pour analyser ça historiquement, j'ai vu qu'il y avait eu des débats très importants dans le canal Recherche là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Madagascar. Et semble-t-il, tout le monde n'était pas d'accord. Il y a plusieurs interprétations. Personne ne sait à quel stade historique en est Madagascar. Donc ça paraît assez difficile d'analyser le truc en particulier. J'ai vu que Martin et Antoine n'étaient pas d'accord. Et moi, quand Martin et Antoine sont d'accord, j'ai tendance à être d'accord avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord, j'ai beaucoup de mal à savoir qui a raison. Donc, et voilà. Et puis, j'ai pas eu assez de temps consacré à Madagascar pour ça. Une question de Corem, Edouard Philippe, osera-t-il censurer après adoption du budget? Alors, après adoption du budget, je pense que oui. Je pense qu'ils décideront de censurer. Parce qu'il s'est avancé dans cette voie et qu'encore une fois, c'est semble-t-il par intérêt personnel qu'il a décidé de s'avancer dans cette voie, parce qu'il a peur de perdre sa mairie et d'être cramé pour les présidentielles. Donc il voudrait que la présidentielle ait lieu avant les municipales. Donc je pense qu'il bougera, dans ce sens, et qu'à la limite, il peut espérer que ce soit un tel chahut d'ici là, que le budget soit passé par ordonnance, et que donc ce soit facile de faire tomber Macron à ce moment-là. Voilà, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que semble-t-il, la demande dans la population de voir Macron démissionner augmente encore. On était à 61%, je crois, il y a 10 jours, on est passé à 68% d'après un sondage qui enregistre une progression de 7%. Je ne sais pas si le résultat en absolu est vrai, mais enfin, il y a une progression. Donc, les gens veulent de plus en plus la démission d'Emmanuel Macron. Jim Raynor, comment le PS censé être de gauche pourrait-il valider les nouvelles mesures comme la taxation des tickets restaurants, c'est anti-travailleur comme idée? Ben oui, oui, évidemment. Simplement, très clairement, on sent que le PS avait envie de ne pas censurer parce qu'ils ont peur d'aller aux élections. Je pense très honnêtement qu'ils ont fait le calcul que les Français s'étaient tellement regoutés sur cette réforme des retraites que leur donner la fin de la réforme des retraites suffirait à leur faire penser que que c'était valable. Voilà. Qu'il y avait tellement de gens que ça concernait la réforme des retraites que si jamais ça coûte des choses par-ci, par-là, c'était pas grave et c'était moins important. Je pense que c'est un calcul qui est un peu en courte vue parce que le temps médiatique est fait de telle façon que aussitôt que vous obtenez la suspension de la réforme des retraites, faut se rendre compte de ça. D'après moi, maintenant, aujourd'hui, là, les gens considèrent que la réforme des retraites, elle a été suspendue. C'est bon, c'est fait. C'est gagné. D'accord ? Donc, elle ne va pas se poser la question de savoir si ça doit être voté. Les gens qui s'intéressent à la politique et aux calculs, aux magouilles, etc., vont le faire, vont s'intéresser. Mais la population en son ensemble, elle a entendu la réforme des retraites est suspendue, c'est comme ça que le gouvernement reste. Youhou, tant mieux, super. Donc, c'est acquis pour la population. Donc, à la limite, qu'après ça foire ou pas, parce que si ça foire, ça va énerver beaucoup les gens, mais que ce soit acquis, c'est acquis, c'est acquis. Le bénéfice politique, il est maintenant. Si maintenant, dans les semaines qui viennent, il commence à y avoir égrené les uns après les autres tous les sacrifices qu'ils vont demander à des catégories pour prix de ça, les gens vont oublier. Pour eux, c'est « Ah, on a obtenu la suspension de la retraite », c'est les nouvelles choses qui arrivent qui vont devenir insupportables. Donc, je pense que médiatiquement ou dans la façon, dans la psychologie collective, c'est un calcul qui est mal fait par le PS parce qu'ils ne pourront pas se contenter pendant des semaines et des mois de répéter « On a obtenu la suspension des retraites ». Ça va très vite se fatiguer comme effet, à mon avis. Donc, voilà, à mon avis, ça... Mais je pense malgré tout que c'est le calcul qu'ils ont fait. Des fois, les gens font des calculs bêtes. Hein. Ça arrive. Ça n'a rien de tout à fait surprenant. Ouais, tu peux stopper les questions pour 22h25, oui, Marvin. Thomas 33, penses-tu que, compte tenu de la capacité de Macron à manœuvrer et à exploiter la faiblesse de la majorité des députés, le renversement du rapport de force risque de prendre plus de temps que prévu? Mais c'est ce que je disais au début. Je peux pas être sûr, encore une fois, parce que il y a une tendance. Moi, ce que je dirais là, c'est qu'encore une fois, je pense que le régime d'Emmanuel Macron doit tomber, et ça serait logique que que la chute de la Ve République se fasse sous Emmanuel Macron. Ça pourrait arriver sous son successeur, notamment dans le scénario que j'ai dit, hein, Marine Le Pen qui se retrouve face à une gauche insurrectionnelle, mais ça paraîtrait plus cohérent vu que c'est quand même sous la présidence Macron que l'essentiel du trajet s'est fait. Bon. Et en plus, à la vitesse où les choses vont depuis 2 ans maintenant, et où régulièrement elles accélèrent encore une fois, parce que souvenez-vous qu'entre mars 2023 et juin 2024, il ne s'est pratiquement rien passé, donc pendant plus d'un an. Et puis ensuite, vous avez eu juin 2024, vous avez eu la motion de censure, qui est la prochaine étape importante, en décembre 2024. Vous avez eu ensuite Bayrou, mais là, vous avez eu septembre, Bayrou, Le Cornu, là, on est sur Le Cornu 2. Voilà, il y a des accélérations. Donc, voilà, moi, je pense que si Macron doit tomber, ça devrait être avant l'été prochain, parce qu'après, on sera à moins d'un an de l'élection présidentielle et vous voyez, par exemple, les gens qui aujourd'hui demandent une démission avec une élection anticipée à Macron, ils ne vont pas lui dire 6 mois avant, tu démissionnes dans 3 mois pour avancer l'élection présidentielle de 3 mois. Ça n'a pas de sens. Hein. Donc, il faut quand même être encore à une certaine distance de la présidentielle pour que ce calcul ait du sens. Et je pense qu'une fois que vous êtes à un an, ça ne vaut plus. Hein. Donc, je pense que si Macron doit tomber, il faudrait qu'il tombe autour, un peu avant ou un peu après les municipales. Voilà. Pas beaucoup plus loin parce qu'après, sinon on arrive à l'été et ça devient compliqué. Et donc dans cette configuration-là, il faudrait s'attendre peut-être à des ralentissements, mais aussi à des accélérations brusques comme on a déjà connu. Voilà. Donc il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps et d'autres qui prennent moins de temps. Et au total, les choses prennent le temps qu'on pensait qu'elles prendraient. Mais encore une fois, tout ça, on va le vérifier au fur et à mesure. J'ai pas de certitude. Florian Borélis, que pensez-vous de Gabriel Latanzio? Peut-il être un leader pour la gauche, enfin un homme à gauche qui réclame la baisse des retraites? Alors je sais pas, c'est pas parce que quelqu'un se met à parler tout d'un coup que ça devient un leader d'opinion. Regardez, on a vu pas mal de figures émerger lors des Gilets jaunes, mais elles ont pratiquement toutes disparu. Ce qui est sûr, c'est que ça montre qu'il y a des gens de gauche, effectivement, qui commencent à avoir ces idées-là. Ça c'est un signe de ça, et on peut penser qu'il n'est pas tout seul. Surtout si c'est une personne qui l'a et qui ose dans des émissions en plateau aller le dire en face, devant tout le monde. Donc ça dit quelque chose. Voilà. C'est à tout le moins un signe de ça. Florian Borélis encore, le fait que les marchés ne sanctionnent pas sérieusement la dette française ne ralentit-il pas la révolution? Sans doute oui, en tout cas où ça n'aide pas à l'accélérer. Il semble même que le taux d'emprunt français a baissé à la suite du discours de politique générale de Le Cornu et de l'annonce du PS qu'il ne censurerait pas. Alors ce qui paraît logique en même temps, puisqu'il a été beaucoup répété qu'une dissolution coûterait beaucoup plus cher que la non-réforme des retraites. Mais les marchés en sont au point où ils sont presque rassurés quand c'est pas le pire qui arrive, ce qui est quand même inquiétant. Et peut-être que... Mais en même temps, avec, encore une fois, je pense, la folie taxatoire qu'on risque de voir se déchaîner dans les semaines qui viennent, voilà, on verra dans quel sens tout ceci évolue. Crahu, comment on a mérité un parti aussi pathétique que LR? Nous sommes les seuls en Europe à avoir une droite aussi débile. Non, je suis pas sûr que LR soit plus débile que la CDU-CSU, par exemple. C'est la droite modérée, c'est ce qui caractérise les conservateurs, c'est qu'ils veulent que tout reste comme ça. Et une fois que ça a un peu changé, ils veulent que tout reste selon le nouveau comme ça. Et voilà. Et donc, c'est généralement pas des gens qui. Et puis à droite, c'est rarement des gens qui sont très inventifs. Voilà, c'est. La supériorité intellectuelle de la droite se trouve rarement chez la droite modérée. Vous pouvez avoir des gens d'extrême droite qui sont très intelligents, toute une histoire de penseurs d'extrême droite brillants. On a toute une histoire de penseurs de gauche brillants. De penseurs de droite modérée brillants, c'est assez rare. C'est assez rare. Le Pen, Axel, Le Pen pourrait-elle être notre MacMahon? C'était l'hypothèse que j'avais mentionnée il y a quelques années déjà. Je ne sais même pas si je ne l'avais pas mentionné dans le président absolu d'ailleurs. En disant que ce qui pourrait arriver, c'est effectivement un président comme ça qui est nommé, qui n'a pas de majorité, qui essaie de s'imposer à sa majorité, et on se retrouve avec une espèce de crise macmahonienne, et il est obligé finalement d'abdiquer et de laisser les pouvoirs au Parlement. Mais encore une fois, avoir ça au-delà d'Emmanuel Macron, quand on voit à quel point la lutte entre le Parlement et la présidence s'est cristallisée maintenant, et encore une fois qu'il y a une volonté de démission d'Emmanuel Macron qui est colossale, j'ai du mal intellectuellement à imaginer qu'on pourrait arriver jusque-là. Ça arrivera peut-être, hein. Encore une fois, je ne suis pas devin. Mais j'ai quand même le sentiment que ça devrait arriver avant. Mais encore une fois, si ce n'est pas arrivé d'ici 8 mois, bah, il faudra bien dire qu'il n'y a pratiquement pas de chance que ça arrivera. Quoi. Mais encore une fois, il peut se passer beaucoup de surprises d'ici 8 mois et des choses que je n'arrive pas à imaginer. J'aurais pas imaginé le truc de Bayrou qui prend les devants et qui dit « bon ben, fusillez-moi ». Pas imaginer la démission de Le Cornu sur un truc aussi débile que la nomination de Le Maire en plus, qui en soi était une erreur mais catastrophique. Voilà, c'est impossible d'anticiper des trucs pareils. Quoi. Vous pouvez juste savoir qu'il est de plus en plus probable qu'il se passe ce genre de choses et que le régime saute à cause de ça. Et là, je pense qu'avec l'ouverture de la négociation sur le budget, il va y avoir pas mal de chahuts propices à ce genre de débordement. Big B, la démographie actuelle et future de la France ne condamne-t-elle pas un lent déclin par conservatisme? Non, c'est pas juste parce que vous aviez... Le problème, c'est pas qu'on a des vieux, le problème, c'est qu'on a des vieux qui tiennent le pouvoir, et un pouvoir au service des vieux. Une fois que vous aurez changé le système structurellement, vous savez, encore une fois... les gens disent oui, les vieux ils sont trop nombreux donc forcément c'est eux qui. Mais encore une fois, si le poids suffisait en démocratie pour dicter la politique, il n'y aurait pas d'immigration de masse depuis 30 ans. Hein. Ça aurait été arrêté à la fin des années 80, hein, drastique. Hein. Vous auriez eu 50 000 entrées par an de gens venant d'Europe et vous auriez eu quelques milliers de gens extra-européens et puis c'est tout. Parce que plus de 60% des Français étaient contre l'immigration de masse. Ben, ça n'a pas empêché que l'immigration de masse a continué. Donc c'est pas parce que vous auriez une majorité de vieux de plus de 50 ans que la politique se fera forcément au profit des gens de plus de 50 ans. Si c'est pas eux qui tiennent les leviers de pouvoir, si la structure du pouvoir ne fait pas d'eux un bloc uni qui votera toujours pour les mêmes, c'est pas eux qui gagneront à la fin. Vous savez, la démocratie, c'est moins une question de poids électoral que de concentration du poids électoral. Là où les boomers ont été très forts pendant quelques années, c'est qu'ils votaient tous au centre. Donc forcément, le centre était extrêmement puissant et les servait à fond. Maintenant, on commence à voir des glissements de vote de boomers en direction de la droite parce qu'ils commencent à avoir peur de l'insécurité, que l'immigration commence à être stressée, tout ça. Donc vous commencez à avoir une division du vote des boomers. Et à partir du moment où vous divisez, vous êtes fini en démocratie. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Max, comme c'est toujours au centre, entre droite et gauche qu'on est gouverné, pourquoi le PS et les LR disparaissent dans une 6e République proportionnelle? Alors, je ne dis pas qu'ils disparaissent dans une 6e République proportionnelle, je dis qu'en tant que parti, comme appareil, ils peuvent être discrédités s'ils ne peuvent plus bénéficier de la structure du truc. Je veux dire, être présent au Parlement toujours, oui, mais si vous avez des réformes structurelles de la façon dont sont gérées les collectivités territoriales, des prérogatives qui sont celles des communes, etc., forcément, à la fin, ces partis-là n'existeront pratiquement plus. Il faut se rendre compte que, vu leur incapacité à gagner les élections nationales, ce qui est le cas depuis une quinzaine d'années maintenant, enfin, un peu moins, pour une dizaine d'années depuis l'ère Macron, ces partis-là tiennent essentiellement par leur assise locale, par le fait qu'ils tiennent des villes, donc des mairies, des régions, etc. Le jour où c'est plus le cas, ces partis, ils n'existent tout simplement plus. Et d'ailleurs, déjà, quand vous commencez à être un parti essentiellement d'élus locaux et à plus avoir de succès nationaux, c'est que vous êtes dans le début de la fin. Ça a été le cas des communismes dans les années 90. Donc ça va continuer. Et en plus, si le régime change, ils seront totalement balayés. Je crois que c'est la dernière question. Général Arnaud, si révolution il y a, selon toi, qu'est-ce qui déclenchera cette révolution et quand est-il possible qu'elle arrive? Encore une fois, je renvoie à l'émission dans la liste des essentiels gratuites. Pourquoi une révolution arrive en France, c'est tout expliqué. Et qu'est-ce qui la déclenche? Pour moi, elle a déjà commencé. Surtout si vous considérez que la révolution française commence avec la convocation des États généraux et pas avec la mort du roi. Enfin, c'est toujours pareil. Simplement, voilà, on est en cours de route. Et l'étape suivante, celle qu'on attend et qui serait véritablement un marqueur très important, je ne le nie pas, c'est la chute du président de la République, sa démission forcée, qui là serait vraiment un marqueur important, qui viendrait sanctionner un tas de trucs qu'on a déjà vu arriver, parce que déjà la parlementarisation, l'idée que le budget puisse être voté 149-3, c'est très important, parce que d'habitude, effectivement, les budgets passent avec 49-3. Vous savez, c'est un truc très intéressant que disait Maude Bréjon l'autre jour, la porte-parole du gouvernement. Pour appuyer le fait que c'était important de faire un 49-3, de laisser tomber le 49-3, c'est elle disait, moi je suis députée depuis 2022, je n'ai jamais voté un budget. Elle était députée de la majorité depuis 2022, elle n'avait jamais voté un budget parce que tous les budgets sont passés par 49-3 depuis 3 ans. Et c'était le cas déjà souvent avant, parce qu'il n'y avait pas de raison de s'emmerder, vous aviez la majorité, vous faisiez un 49-3 et puis c'était terminé. Voilà. Et vous aviez votre budget qui était fait. Là, maintenant, il faut enfin discuter le budget. Et discuter le budget, c'est quand même le cœur de la démocratie, normalement. À partir de ne pas avoir un parlement qui discute le budget, avoir systématiquement une majorité qui vote le budget en décidant que c'était comme ça, vous sortez de la démocratie parlementaire. Donc, c'est déjà une mutation extrêmement importante qui est arrivée, ça. Je veux dire, la plupart des gens qui vous disent que, c'était pas prévisible tout ça. Ben désolé, si. Hein. Moi, ça fait des années que je dis qu'on va vers une reparlementarisation dans le cadre d'un processus révolutionnaire. Alors certes, le plus spectaculaire, ça devrait être la chute de la présidence de la République, et je pense que ça arrivera. Mais il y a déjà beaucoup d'éléments de cette transition qu'on pouvait anticiper qui sont en train de se faire. Voilà. Mais naturellement, on rentrera dans autre chose parce que les révolutions, ça commence toujours par des actes qui sont des réformes fortes au plan institutionnel. Et ensuite, vous avez forcément des choses qui se mettent à se casser plus fort. Et là, on entre véritablement dans les secousses importantes. Ces secousses importantes, on n'y est pas encore vraiment, mais il y a des indices qu'on y va. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On est en live spécial, donc c'est pas la peine de faire forcément beaucoup plus long. Je suis allé jeter un coup d'œil sur Tipeee Je ne vois rien. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter. Je sais que vous êtes nombreux à venir et à venir à chaque fois. Vous avez fait beaucoup de vues supplémentaires, notamment en profitant des lives spéciaux. Ça demande pas mal de travail, encore une fois. Moi, je viens là vous parler après. J'étais grippé toute la journée. N'hésitez pas à nous soutenir. Même des tout petits dons via Tipeee qui sont pas des grosses souscriptions. Juste ça, déjà, un petit tip. C'est gentil. Hein, si vous écoutez encore une fois un artiste de rue pendant plusieurs heures, en général, vous partez pas sans laisser une petite pièce. On vous demande juste de pas nous traiter moins qu'un jongleur. Est-ce qu'on a eu des souscriptions? Je jette un œil. Ah, c'est pour ça que Martin H a été considéré comme nouveau membre. C'est parce qu'il est passé au niveau supérieur. On le remercie. Nous avons eu des abonnements depuis 2 jours. Il y a eu Guillaume Voirmesson, il y a eu JW, il y a eu Bedinshop, que nous remercions. Et puis, je pense que c'est tout. C'est tout. On avait aussi eu Philippe Sfer et Benjamin Pillot, je pense, qui s'étaient ajoutés après le dernier live et que j'avais pas eu le temps de les saluer. Notre cher Iruma me fait savoir que il y a bien peu de pouces activés. Alors je vais vérifier. Quand on voit le nombre de viewers, c'est vrai que j'ai remarqué que vous étiez à peu près 900 ce soir, entre 800 et 900. Non, Max, je ne sais pas jongler, malheureusement. Je n'ai jamais réussi. Effectivement, on n'a que 258 pouces, ce qui est bien peu. Je pense qu'on peut arriver aux 500 pouces. Vous savez que c'est extrêmement important. C'est le principal moyen, en fait, hein, encore une fois, de faire évoluer la chaîne. C'est devenu très dur de le faire par les promotions. Je vous avais dit qu'on avait un plan là-dessus, mais pour l'instant, encore une fois, il est compromis en raison de la très faible rentabilité des promotions, pour des raisons qui m'échappent totalement, qui tiennent probablement à l'algorithme de YouTube. Mais il semble aussi que YouTube cherche aussi à favoriser la croissance à l'ancienne, c'est-à-dire sur la base de référencement. Et les référencements, ça passe par les pouces, ça passe par les partages, notamment en allant dire aux gens, si vous avez découvert la chaîne, ben, va voir ce type, il raconte des trucs intéressants. Il y a plein de vidéos en accès libre que vous pouvez voir, bien avant de vous abonner et de regarder encore toutes les autres vidéos qui sont en accès. Mais déjà des vidéos en accès libre, vous devez en avoir une dizaine ou une douzaine d'heures, plus les derniers lives qui sont aussi gratuits pendant une semaine. Ça fait quand même pas mal de contenu en accès gratuit pour découvrir la démarche. Et puis bien sûr, ne pas hésiter à laisser un petit commentaire. Même si vous avez parlé pendant le chat, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou. Et même à vous disputer éventuellement dans les commentaires sous la vidéo. Ça permet de faire de l'engagement. Et ça, YouTube adore que les gens viennent s'engueuler sous ces vidéos. Pas un réseau social pour rien. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. J'avais vraiment envie de faire ce retour. Je ne voulais pas vous laisser abandonner hier soir ou donner l'impression que comme il n'y avait pas de censure, eh ben, c'était on laisse tomber, etc. Pas du tout. Encore une fois, c'est de l'expérience. On expérimente. On essaie d'utiliser aussi pour la théorie, pour enrichir la théorie, les événements présents. Et donc, il faut s'emparer de ces événements, les regarder, les décortiquer. Et il n'y a pas de mauvaises données là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous ce soir. On verra si demain il y a une surprise, ben, on refera un live spécial. Sinon, je vous retrouverai lors du live hebdomadaire. Et d'ici là, surtout, vous laissez pas faire.